La loi est le 9e commandement, étude numéro 262. Il est écrit « Tu ne porteras point de faux témoignages ». Cette étude explique la structure entière de la loi de Dieu, telle qu'elle s'applique à son commandement, expliquée par les prophètes et les testaments, conformément à la lecture de la loi, les années de sabbat. Il est écrit, nous lisons dans Exode, chapitre 2, verset 16, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Version 8 secondes. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 5, verset 20, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Version 8 secondes. Le 9e commandement concerne le concept de l'homme en tant que la création de Dieu et d'Israël en tant que le témoin de Dieu, les deux aspects étant représentants de Dieu et sa loi-ordre. Toute justice ou droiture, entre parenthèses tzedek, est dépendante du vrai témoignage. Ainsi, le concept de mensonge est contraire à la loi de Dieu. Satan, l'adversaire, est le père du mensonge, Jean 8, verset 44. Son système est contraire à la loi-ordre de Dieu et est basé sur le mensonge. Témoin de Dieu et de son système. La nation est une extension du système de Dieu. Nous lisons dans Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Version 8 secondes. Nous sommes appelés pour être les témoins du Dieu vivant, tant comme élus que comme nation. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Version 8 secondes. Ainsi, nous devons être des vrais témoins du système de Dieu. L'universalité de la loi. La loi est universelle et elle s'applique à tous ceux qui font partie de notre nation. Nous lisons dans Nombre, chapitre 15, versets 13 à 16, « Tout indigène fera ces choses ainsi, lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si un étranger, séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous, offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, il l'offrira de la même manière que vous. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. » Version 8 secondes. La loi s'applique uniformément aux nations et à tous les hommes. Les hommes peuvent toujours pécher, soit par ignorance, soit en pleine connaissance de la loi, mais tous sont jugés individuellement selon la même loi. Nous lisons dans Nombre chapitre 15, versets 29 à 30, « Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi, quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. » Version 8 secondes. La même punition s'applique à tous. Nous lisons dans Deutéronome 10, versets 18 à 19, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Version 8 secondes. La sanctification sous la loi. Nous sommes tous sanctifiés sous la loi de Dieu, comme une nation sainte. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 11. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Version Louis II. Notre sanctification vient de l'alliance de Dieu par l'intermédiaire du Messie. De cette façon, nous sommes édifiés comme un peuple saint en tant que la famille de Dieu sans défaut. Lévitique 19, verset 2, Lévitique 22, verset 17 à 25. Consultez l'étude La Loi et le cinquième commandement, étude numéro 258. Par la parole de Dieu qui est le vrai témoin, nous sommes conduits dans la vérité. Psaume 119, verset 105. La parole vaine. Dans un vrai témoignage, il n'y a aucune parole vaine, car la parole vaine est dans le faux témoignage, et nous rendrons compte de chaque mot futile que nous prononçons. Satan est le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Et ce nom de la foi encercle les élus de mensonges et de haine, et lutte contre eux sans raison. Psaume 109, verset 3. Ceux qui rejettent la foi deviennent des commères et des personnes qui se mêlent de tout. 1 Timothée 5, verset 13. Un hypocrite détruit son voisin avec sa bouche, mais les justes sont délivrés par la connaissance. Proverbe 11, verset 9. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 35 à 37. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Version Louis II. Nous jugeons souvent les autres avant de nous juger nous-mêmes, et dans ce faux jugement, nous portons de ce fait un faux témoignage. Nous lisons dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Version Louis II. Notre confiance devrait être en Dieu et en sa vérité, pas dans notre propre force. Nous lisons dans Psaume 52, versets 1 à 5. Au chef des chantres, cantique de David. À l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül, en lui disant « David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. » Pause. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours, il te saisira et t'enlèvera de ta tente, il te déracinera de la terre des vivants. Pause. Version Louis II. Nous devons parler des choses qui sont basées sur et sont propices à la saine doctrine. Nous lisons dans Tite, chapitre 2, versets 1 à 3, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin. qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Version Louis II. Toutes les accusations proviennent de l'adversaire. Le royaume de notre Dieu et de son Christ vient bientôt, où l'accusateur de nos frères sera jeté par terre. Les saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, l'ont vaincu par le sang de l'agneau. L'accusateur sera bientôt lié pour la durée du règne millénaire du Messie. Apocalypse 12, versets 1 à 11, Apocalypse 22, verset 14, Apocalypse 20, versets 1 à 4. La fausse liberté en tant que l'anarchie. La liberté du monde provient des lois de Dieu en tant que vrai témoignage. La liberté sans loi est une fausse liberté et est l'anarchie. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité, car ils sont ceux que le Père recherche pour l'adorer. Jean 4, verset 23 à 24 et suivant. Seule la vérité nous rendra libres. Jean 8, verset 32. Le témoignage contre l'homme et l'armée déchue. Nous nous sommes engagés à agir dans la vérité, car il est écrit, nous lisons dans Deutéronome 6, verset 16, « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Version Louis II. Nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous lisons dans Matthieu 4, verset 3 à 10. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Version Louis II. Christ a adoré Dieu et a refuté Satan en disant, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Si Christ n'a adoré personne d'autre que Dieu, quel genre de témoignage donnons-nous si nous ne le faisons pas? Adorer Christ équivaut à porter un faux témoignage, et c'est une violation des commandements qu'il ne violerait pas lui-même. Tenter Dieu. Le premier mensonge a été dit par Satan à Ève, et c'était le mensonge de l'immortalité. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Genèse 3, verset 4. Nous lisons dans Genèse 3, verset 3, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Version Louis II. Nous lisons dans Genèse 3, verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Version Louis II. Par leur faux témoignage, ils ont tous deux tenté Dieu, et tant la femme que le chérubin protecteur, c'est-à-dire Satan, ont de ce fait encouru la peine de mort. Genèse 3, verset 1 à 24, Ésaïe 14, verset 12 et suivant, Ézéchiel 28, verset 1 à 19. Nous devons être sélectifs sur la manière et avec qui nous exposons la vérité, puisque nous sommes exhortés à ne pas donner ce qui est saint aux chiens, et à ne pas jeter vos perles aux pourceaux. Christ a parlé en parabole, comme c'était prophétisé, Ésaïe 6, verset 9, afin que les gens ne comprennent pas, et se détournent, et soient sauvés avant le temps. Matthieu 7, verset 6, Matthieu 13, verset 10 à 13, Marc 4, verset 11 à 17. On nous a confié les mystères du royaume des cieux, afin que nous les sauvegardions, mais c'est maintenant la fin de l'âge et le temps de parler clairement. Durant les prochaines décennies, les nations et le système du monde des derniers jours seront réduits à rien, et les démons seront confinés à la fosse pour y être gardés jusqu'à la deuxième résurrection. nous adorons Dieu en vérité et par une conversation franche. Nos prières ne doivent pas être des répétitions vaines comme celles des païens. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 8. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Version 8 secondes. Dieu nous entend lorsque nous parlons franchement. Pas par des cris comme ceux des prêtres de Baal, 1 roi 18, verset 28. Nous rendons témoignage à Dieu par nos actions, à l'intérieur de sa loi. Psaume 2, verset 1 et verset 2. La fausse prophétie. La fausse prophétie sera enlevée au retour du Messie. Elle sera détruite lors du jugement, suivant le système millénaire et la deuxième résurrection. Nous lisons dans Deutéronome 18, versets 10 à 15. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. » Version 8 secondes. Le prophète, dans Deutéronome 18, verset 15, était le Messie, dont sa parole est vraie. Et le prophète qui prétend dire une parole au nom de Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Ainsi, tous les faux prophètes mourront et seront dans la seconde résurrection. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 18, versets 20 à 22. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Version 8 secondes. Si le prophète est un faux prophète, nous ne devrions pas avoir peur de lui, puisque Dieu s'occupera de lui. Un prophète ne peut pas être empêché de faire son travail jusqu'à ce que Dieu détermine que c'est fini. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 11, versets 21 à 23. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées « Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera. » Car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatote, l'année où je les châtierai. » Version 8 secondes. La capacité des prophètes est reliée à leur fidélité envers la loi de Dieu. Jérémie 23, versets 9 à 40. Les plus grands prophètes ont fait des miracles par la puissance de Dieu, car la terre appartient au Seigneur Dieu pour en faire ce qu'il veut. Il est sur le point d'écraser Satan sous nos pieds. Exode 9, verset 29, Deutéronome 10, verset 14, Romains 16, verset 20. Certains prophètes, comme Balaam, Ben Péor, parlent par l'Esprit Saint, ou bien Dieu leur parle par l'Esprit Saint, bien qu'ils ne soient pas ces gens choisis, il les a utilisés et peut les utiliser pour des buts spécifiques. La Bible en mentionne quelques-uns. Le test de validité est « Parle-t-il selon la loi et le témoignage ? S'ils ne parlent pas ainsi, il n'y a aucune lumière en eux. » Ésaïe 8, verset 20. Le témoignage de Dieu par l'intermédiaire des prophètes et du Messie. Dieu a parlé à travers les prophètes depuis l'époque des patriarches. Il ne fait rien avant de l'avoir tout d'abord révélé par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 17, verset 23. Jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes, et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Version 8 secondes, comparé à Amos 3, verset 7. Dieu a alors parlé à Judas à travers le Messie. Le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements en disant « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» même s'il n'a pas compris entièrement les implications de ce qu'il a dit et fait. Ils ont ensuite condamné Yahushua, le Messie, à mort. Marc 14, verset 63 et suivant. Il était un témoin fidèle et le prince des rois terrestres et le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 1, verset 5 à 6, Apocalypse 3, verset 14. Sa venue en tant que le Messie a été prophétisée depuis fort longtemps. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 18, verset 16 à 19. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Version 8 secondes. Le Messie a témoigné du Père qui est dans les cieux. Sur la terre, nous n'appelons personne Père, car nous n'avons qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Matthieu 6, verset 9, Matthieu 23, verset 9. Aucun homme n'a jamais vu Dieu, sauf celui qui est venu de Dieu. À travers le témoignage de Christ, le seul Elohim né, le Père nous est révélé. Matthieu 11, verset 27, Jean 1, verset 18, Jean 6, verset 46, Jean 10, verset 15. Si nous accomplissons les œuvres de Dieu, nous sommes alors de véritables témoins, et on peut nous croire. Jean 10, verset 34 à 38. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. Comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, le Fils, de la même manière, donne la vie à qui il veut. Jean 5, verset 21. Cela est le but du témoignage du Messie. Il est venu pour révéler le Père. Il s'ensuit donc que le témoignage de la vérité est central à la foi. Le faux témoignage dans la société. Le faux témoignage et la bouche mensongère. Dieu déteste le faux témoignage et la bouche mensongère, car par ceci, la discorde est semée parmi les frères. Nous lisons dans Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19. Il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Version 8 secondes. Nous lisons dans Proverbes 12, verset 22, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Version 8 secondes. Nous lisons dans Proverbes 19, verset 5, « Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. » Version 8 secondes. La punition pour mentir à l'Esprit Saint est la mort, parfois immédiate et bien évidente. Nous lisons dans Actes, chapitre 5, versets 3 à 5, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Version 8 secondes. Paul nous a exhortés à ne pas nous mentir les uns aux autres, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Colossiens 3, verset 9. Christ a condamné ses compatriotes juifs quand ils ont cherché à le tuer. Ils voulaient le tuer parce que sa parole n'avait aucune place en eux. Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Jean 8, versets 31 à 59. Cela aurait dû être le test avec Adam et Ève. Ils n'auraient pas dû être séduits ni avoir cherché une excuse de l'avoir été. Genèse 3, versets 1 à 24. Christ est appelé fidèle et véritable parce qu'il est fidèle et vrai. Il fait la guerre avec justice et vérité. Apocalypse 19, verset 11. 1 Roi 22, versets 18 à 28 est un texte déroutant où il semble que Dieu ait commandé à un esprit mensonger d'entrer dans la bouche des prophètes. La réponse est donnée de cette façon pour faire comprendre au roi qu'un esprit mensonger avait été donné aux prophètes d'Israël. Ils ont trompé en faisant paraître une vraie prophétie comme étant fausse. La prophétie était « Monte, car Yahovah la livrera, entre guillemets, Ramoth Gilead, entre les mains du roi. » Voir 1 Roi 22, verset 6. Le problème était que cette ville devait être livrée entre les mains du roi de la Syrie, non du roi d'Israël. Dieu a néanmoins envoyé son serviteur Michée, qui a dit la vérité, quand on lui a demandé. Voir 1 Roi 22, verset 19 à 23. Demander une direction sans suivre les lois de Dieu est une abomination, et cela invite le désastre. Dans ce texte, nous voyons que Dieu évalue aussi les esprits dans ces questions. La tradition comme faux témoignage. Christ a condamné les traditions des pharisiens qui étaient à ce moment-là introduites dans Judas, telles que vues dans Matthieu chapitre 15. Nous lisons dans Matthieu chapitre 15, versets 1 à 14. « Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites « Celui qui dira à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez. » Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Version 8 secondes. Les pharisiens et les scribes ont annulé la parole de Dieu par leur tradition. De là, ils devaient être évalués en rapport aussi avec la loi. Ésaïe 8, verset 20. En conséquence, ils ont été envoyés en captivité en l'année 70 de la courante, 40 ans après la mort du Messie, conformément au signe de Jonas. Comparez l'étude « Le signe de Jonas » et l'histoire de la reconstruction du temple, étude numéro 13. Nous lisons dans Exode, chapitre 1, versets 17 à 21. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Version 8 secondes. La protection de tous réside dans leur crainte de Dieu. Ceux qui sont appelés et choisis deviennent tous des maisons ou des chambres dans le temple de notre Dieu. Nous lisons dans Lévitique chapitre 19, verset 14 et versets 17 à 18. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Version 8 secondes. La structure entière de justice est exposée, conformément à la vérité, sans exception de personne. Elle n'est pas faite pour être cachée. Il n'y a aucune exception de personne dans le jugement. Comparez Deutéronome chapitre 1 verset 17 ci-dessous. Le vrai témoignage doit être considéré par les gens de Dieu dans chaque aspect de leur vie. Il ne doit pas y avoir de faux témoignages dans n'importe quel aspect de leur opération, que ce soit dans l'administration, ou dans la justice, ou dans le commerce, par les poids ou les mesures, ou dans les documents. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 19, versets 35 à 36. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des hins justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Version 8 secondes. La calomnie. La calomnie, ou entre parenthèses la médisance, est un vol, comme nous l'avons vu dans l'étude La Loi et le 8e commandement, étude numéro 261. Par la calomnie, nous dérobons le caractère des autres, et par conséquent, nous les assassinons. Leurs vies sont diminuées et leur esprit est écrasé. Nous avons déjà vu les injonctions contre la calomnie ci-dessus. Dieu rejette les calomniateurs. Nous lisons dans Jérémie 6, versets 27 à 30. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple, comme une forteresse, pour que tu connusses et sondasses leur voie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur. Les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Version 8 secondes. Par l'intermédiaire de Jérémie, Dieu montre à quoi aboutit la violation de la loi. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 9, versets 1 à 6. « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. » Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté, c'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Version 8 secondes. Le faux témoignage empêche les gens de connaître Dieu. Les gens racontent des histoires pour répandre le sang. Ézéchiel 22, verset 9. Nous lisons dans Exode, chapitre 23, versets 6 à 7. Tu ne porteras point atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Version 8 secondes. La justice ne doit pas être influencée par le nombre ou la richesse. La vérité ne doit pas être mal interprétée selon les vues de la multitude. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 19, verset 16, « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Version 8 secondes. Le commérage tue les gens et détruit les familles. C'est la marque d'une nation dépravée. La calomnie dans la famille. Un homme qui calomnie la chasteté de sa femme doit être réprimandé par les anciens de la ville. Tout comme la femme stupide qui déshonore sa maison. Comparez Deutéronome 22, versets 13 à 21, et aussi les études, la loi et le cinquième commandement, étude numéro 258, et la loi et le septième commandement, étude numéro 260. Tous les hommes doivent aimer leur femme comme Christ aime l'Église. Aucun homme ne peut dire du mal de sa famille et être en même temps dans la famille de Dieu. Comparez Éphésiens 5, versets 28 à 29. Les femmes devraient vivre de telle façon à honorer leur mari. De la même façon, les maris doivent vivre avec elles, selon la connaissance, en honorant leur femme, comme étant héritières ensemble de la grâce de vie, et de sorte que leurs prières ne soient pas entravées. 1 Pierre 3, versets 1 à 7. Dieu n'entend pas le calomniateur, ni la personne qui ne rend pas honneur à la famille de Dieu. De plus, l'homme ne doit pas humilier ou rabaisser la femme. Deutéronome 22, verset 29, Exode 22, verset 16 à 17. La calomnie dans la famille est strictement interdite. Nous lisons dans Psaume 50, versets 19 à 20. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Version 8 secondes. La calomnie en tant que vol. Nous avons vu que la calomnie est un vol du caractère de l'autre. Nous sommes censés de nous débarrasser du vieil homme et de nous revêtir du nouvel homme qui est renouvelé par la connaissance selon l'image de Dieu. Colossiens 3, versets 9 à 10. Nous lisons dans Colossiens, chapitre 3, versets 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Version 8 secondes. Le nouvel homme est l'Esprit Saint en Jésus-Christ qui est l'image de celui qui l'a créé. C'est une des trois citations spécifiques, comparée Hébreux 3, verset 2, Apocalypse 3, verset 14, concernant la création du Messie, et c'est la seule qui n'a pas été falsifiée, alexée, parce qu'elle est la plus obscure. Tout homme doit rejeter le mensonge et dire plutôt la vérité à son voisin. Éphésiens 4, verset 25, comparé Proverbe 11, verset 19. C'est pourquoi nous sommes admonestés. Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Version 8 secondes. Nous lisons dans Tite 3, versets 1 à 3, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï, et nous haïssons les uns les autres. » Version 8 secondes. Nous devons obéir à la loi et ne dire de mal de personne. Nous lisons dans Jacques, chapitre 4, verset 11, « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Version 8 secondes. Nous ne devrions pas nous condamner nous-mêmes par notre propre bouche comme un insensé. Nous lisons dans Proverbes, chapitre 10, verset 18, « Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Version Louis II. Dieu a dit ce qu'il fera aux calomniateurs et à l'orgueilleux. Nous lisons dans Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Version Louis II. Partie 2. Le système de la justice. La base de la loi naturelle. Lisons dans Lévitique 24, verset 22. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Version Louis II. Les principes de la justice naturelle exigent que chaque personne soit sujette aux mêmes lois. Chaque personne doit connaître les charges contre elle par écrit et doit avoir l'opportunité de considérer ce qu'elle doit faire suite à celle-ci. L'accusé ou le demandeur doit avoir une audition juste, sans parti pris, et ses juges doivent être impartiaux et ne pas faire exception de personne. Pour cette raison, Dieu nous a donné ses lois par écrit et les charges déposées contre nous le sont par les prophètes et mises par écrit. On nous a donné du temps pour considérer les charges et Dieu retarde le jugement afin que nul ne périsse. La même structure juridique existe dans la société qui opère sous les lois de Dieu avec le pouvoir judiciaire établi agissant au nom de Dieu. On nous donne une série de tests par lesquels nous sommes éprouvés. Les élus entrent en jugement maintenant et le jugement commence par la maison de Dieu. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Version Louis II. Le reste des gens ne sera jugé qu'à la deuxième résurrection, quand ils seront tous ressuscités, puis corrigés dans le jugement et offerts l'opportunité du salut. Apocalypse 20, verset 4 à 15. Agir sur l'ordre d'un autre. C'est une violation de la justice naturelle et de la loi de Dieu d'exercer son jugement sur l'ordre d'un autre. Christ exerce le jugement car il a reçu l'autorité de Dieu. Il n'est pas venu dans le monde pour juger, mais pour donner au monde l'enseignement par lequel il serait jugé. Ceux qui l'ont accepté et qui font ainsi partie de la maison de Dieu seraient jugés à partir de ce moment-là et jusqu'à la première résurrection. Voir 1 Pierre 4, verset 17. Ceux qui ne l'ont pas accepté devaient être jugés au dernier jour, c'est-à-dire à la deuxième résurrection des morts, mentionné dans Apocalypse 20, verset 11 à 15. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 46 à 48. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Version Louis II. Donc, le Messie n'a pas été envoyé à ce moment-là pour juger le monde. Il a été envoyé pour le sauver. Le jour dernier est une période qui couvre un laps de temps de 1000 ans, de l'avènement et la première résurrection, jusqu'à la deuxième résurrection à la fin du millénium. Comparé à Apocalypse 20, verset 1 à 14. Voir aussi l'étude « Le jour du Seigneur et les derniers jours », étude numéro 192. Les procès par l'épreuve. Le Seigneur a établi dans la nation quelques systèmes de procès par l'épreuve, pour des raisons psychologiques spécifiques. Tous ces aspects ont été conçus pour préserver la famille intacte. Nous lisons dans Nombre, chapitre 5, versets 11 à 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoin contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, et a des soupçons sur sa femme, qui s'est souillée, ou bien s'il s'est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile. Il n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné, et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira « Amen, Amen ». Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se déchèchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille, et pour le cas où un mari, saisi d'un esprit de jalousie, a des soupçons sur sa femme. Le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Version 8 secondes. Ces lois sont pour la protection de la famille et de l'individu contre les aberrations dans le ménage. Nous voyons cela aussi dans Deutéronome 22, versets 13 à 21. La calomnie et le boucan dans le ménage sont punis par des amendes et par une incapacité de divorcer dans le futur, même quand cela peut être jugé désirable à cause des évidences. Le faux témoignage dans une cause affecte donc le témoignage futur dans la même cause. Dans ce cas, c'est la fidélité de l'épouse. Cette loi au sujet du faux témoignage a de nombreuses autres applications aussi. Si le témoignage a été falsifié pour arracher le jugement ou donner avec un parti pris, un tel témoignage ne doit pas être pris en considération dans les causes qui en découlent. Cette position a parfois été appelée la doctrine de l'arbre infecté, mais elle doit être appliquée soigneusement et dans des circonstances spécifiques, comparée Deutéronome 22, versets 13 à 21, et aussi la loi et le septième commandement, étude numéro 260. La loi de Dieu est le témoignage contre le monde. Nous lisons dans Romains, chapitre 3, versets 9 à 23. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Version Louis II. Aucune personne n'est justifiée par la loi, mais par le témoignage de la loi et les prophètes, Dieu s'avère juste. La création elle-même était un procès par l'épreuve. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'établissement du système judiciaire et des juges. Toute autorité est constituée par Dieu. Toute action doit être conforme à la loi de Dieu, car elle procède de sa nature. Comparez l'étude Le gouvernement de Dieu, étude numéro 174. Toute la loi et les prophètes proviennent des deux grands commandements de la loi. Il s'ensuit que l'action, qui est contraire à la loi biblique, est contraire à la volonté de Dieu. L'action au-delà de la loi biblique ne doit pas être au détriment de l'autre. Des lois secondaires peuvent être établies pour régler la société, puisque avec l'autorité, le contrôle est aussi donné à la nation. Rien ne peut être ajouté au témoignage ou enlevé de lui. Comparez Apocalypse 22, versets 18 à 19. La signification de certains textes est cachée jusqu'au temps de la fin, mais l'Esprit Saint parle maintenant ouvertement à ceux qui veulent entendre. Aucune loi ne doit diminuer les libertés et la structure décrite dans la loi de Dieu. Aucune loi civile ne doit contredire la loi de Dieu. Aucune nation ne peut passer une loi qui contredit pertinemment la loi de Dieu. Aucun groupe ne peut établir une tradition qui change ou diminue ou ajoute à la loi de Dieu. Aucune église ne peut passer une loi qui altère ou change la loi de Dieu, ou son calendrier établi dans les cieux et enseigné dans la Bible. L'Église chrétienne dominante a illégalement tué plus de personnes qui ont refusé d'obéir à ces règles humaines qui sont contraires à la loi écrite de Dieu que tout autre système sur la terre. Elle est vraiment ivre du sang des saints et des martyrs. Voir Apocalypse 17, versets 4 à 6. Nous lisons dans Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent : il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Version Louis II. Les juges et leurs responsabilités. Dieu a établi un système de juges à l'intérieur de la loi. Voir Exode 18, versets 13 à 26. La nomination des juges est écrite dans Deutéronome 16, verset 18, où nous lisons : tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Version Louis II. La loi est donnée aux 70 anciens d'Israël qui ont reçu leur responsabilité et leur compréhension par l'Esprit Saint du Seigneur. Nous lisons dans Nombre, chapitre 11, versets 16 à 17, « L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. » Version Louis II. Le fardeau des gens repose sur l'interprète de la loi, le souverain sacrificateur et le conseil des anciens d'Israël. À partir de là, des juges sont nommés dans toutes les villes d'Israël, dans toutes les tribus. Nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 19, versets 1 à 7. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beer-Sheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville, et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acception de présent. » Version 8 secondes. Le Seigneur est avec les juges d'Israël, et il ne doit pas y avoir d'acception de personnes ni de présent, tels que des pots de vin, car il ne juge pas pour l'homme, mais pour Dieu. Cela est basé sur la Torah. Nous lisons dans Exode 23, verset 8. « Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » Version 8 secondes. Nous lisons dans Lévitique 19, verset 15. « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à l'apparence du pauvre et tu ne favoriseras point l'apparence du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Version 8 secondes. Nous lisons dans Deutéronome 24, versets 17 à 18, « Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. » Version 8 secondes. Les juges étaient nommés comme c'est décrit dans Exode, chapitre 18, versets 22 à 27, où nous lisons « Qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse les affaires difficiles, et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père, et Jéthro s'en alla dans son pays. Version 8 secondes. Moïse a raconté la nomination des juges à Israël. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 1, versets 12 à 17. « Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Et comme ayant autorité dans vos tribus, je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges, écoutez vos frères, et jugez selon la justice les différends de chacun, avec son frère ou avec l'étranger. » Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Version 8 secondes. Israël avait néanmoins des problèmes dans sa foi, même sous des justes juges. Le jugement doit protéger la dignité de la personne, tant dans la procédure que dans la punition. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 25, versets 1 à 3. Lorsque des hommes, ayant entre eux une querelle, se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Version 8 secondes. La loi exige l'enquête sur le crime et l'étude des preuves, comme c'est vu de l'exemple de Deutéronome, chapitre 21, versets 1 à 9, où nous lisons « Si dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville la plus rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront « Nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Version 8 secondes. En cela, il y a une présomption d'innocence entre les parties jusqu'au jugement. La présomption d'innocence caractérise la justice sous la loi de Dieu. Pourtant, tous les hommes sont coupables devant la loi. Comparer la loi et le sixième commandement, étude numéro 259. Même l'adversaire a été mis en procès devant ses pairs avec Christ dans le désert. C'est le sang de Christ qui purge notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Voir Hébreux 9, versets 13 à 14. Quand le jugement est terminé et le verdict est donné, les sommes d'argent sont en échange de la vie. Nous lisons dans Exode, chapitre 21, versets 30 à 32, « Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. » Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 sicles d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. Version 8 secondes. Samuel comme juge itinérant. Samuel était juge itinérant en Israël. Il est donc permis d'établir une cour de jugement mobile. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 7, versets 16 à 17. Il allait chaque année faire le tour de Babel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Version 8 secondes. Le jugement repose sur les dirigeants d'Israël en tant que nation. Tout jugement doit être fait conformément au culte du Dieu vivant. Nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 23. « Écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. » Version 8 secondes. Tous ceux qui ont été nommés intendants doivent être fidèles. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Version 8 secondes. Par conséquent, la délégation exige que le délégué assume consciencieusement l'autorité et la responsabilité. La cour et la procédure. Il s'ensuit de la nomination des juges que la cour et la procédure doivent aussi être déterminées sous l'autorité de la loi. Un processus d'investigation ou expertise médico-légale doit être prévu. Comparez aussi Deutéronome 21, versets 1 à 9, ci-dessus. Toutes les questions devraient être en premier lieu résolues entre les parties et amenées à la cour seulement si les personnes ne peuvent s'entendre. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 16. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Version 8 secondes. Les causes compliquées et controversées doivent être référées aux cours supérieures. Comparez Deutéronome chapitre 17, versets 8 à 11, ci-dessous. Les anciens de la ville doivent établir un palais de justice situé à l'intérieur de la ville. C'est là où auparavant les anciens rendaient justice. Deutéronome 21, verset 19, Deutéronome 22, verset 15, 25, verset 7, Amos chapitre 5, verset 12, verset 15, Zacharie chapitre 8, verset 16. La cour du jugement établie par Salomon était faite en cèdre et un trône du jugement était placé sur le porche de cèdre. Elle était séparée de la maison du roi qui avait une autre cour à l'intérieur de son porche du jugement qui était de construction similaire à l'autre. Voir 1 Roi 7, verset 7. Toutes les plaintes devraient être faites par écrit. Comparez Job 31, verset 35. La structure de la cour doit être traitée avec la solennité et le respect qui lui est dû, comme venant de Dieu et de l'Élohim de justice. Comparez Exode 22, verset 28. Il ne doit pas y avoir de mépris de la cour ni de ses décisions. Deutéronome 17, verset 12 à 13. Dieu prendra de l'Esprit Saint qui repose sur le Messie et il en donnera aux juges et aux dirigeants d'Israël selon leurs requêtes et leur obéissance envers lui. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5 à 15. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem, et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Version 8 secondes. Même Salomon est tombé en disgrâce, après s'être fait donner toute cette sagesse et ce pouvoir, et après avoir reçu la permission de construire le temple. De la même façon, un élu peut aussi perdre sa place dans la première résurrection par l'idolâtrie ou par la violation de l'esprit de la loi. L'épreuve. Un système d'assemblage et d'évaluation d'épreuves doit être établi. Comparé Deutéronome 19, versets 3 à 13. Personne ne sera mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Nous lisons dans Nombre 35, verset 30, si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Version 8 secondes. Un témoin ne se retournera pas contre la personne à cause de son péché. Nous lisons dans Deutéronome 19, verset 15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Cette règle s'applique aussi à tous les anciens. Voir 1 Timothée chapitre 5, verset 19. La preuve doit être divulguée aux deux parties lors du procès. Aucun retrait de preuve ou de témoin n'est permis. Comparez Matthieu 18, verset 15 à 16. La loi donnée par Moïse est la loi de base de Dieu. Tous recevront la grâce par l'entremise de l'Esprit Saint. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 10, versets 28 à 29, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?» Version 8 secondes. À l'époque des juges, la culpabilité était déterminée par le sort, et ensuite par l'aveu. Comparez Josué 7, versets 14 à 26. Aucune coercition n'a jamais été utilisée sous la loi biblique pour obtenir une preuve. La parole des prophètes était souvent utilisée par Dieu. L'échec de produire la preuve dans un procès correspond à la complicité dans le crime. Voir Lévitique 5, verset 1, Psaume 50, verset 18. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 5, verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Version 8 secondes. Le faux témoignage est interdit. Nous lisons dans Exode, chapitre 23, verset 1 à 3. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Version 8 secondes. Le système de Dieu en est un de considération pour le pauvre et la nourriture est donnée à tous, moyennant un effort de leur part. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 19, versets 9 à 11. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie, les uns envers les autres. » Version 8 secondes. Personne ne doit utiliser la tromperie avec son prochain. Cette exigence s'applique également à toute chose reliée avec le commerce et l'industrie. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 25, versets 13 à 19. « Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'éphas, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Version 8 secondes. L'utilisation de faux poids et de fausses mesures est aussi un faux témoignage. Profiter de la faiblesse pour essayer de détruire un autre groupe ou les gens est contre la loi de Dieu, sauf lorsque Dieu l'ordonne spécifiquement selon la loi. La retenue de l'évidence. Il ne doit pas y avoir de retenue de l'évidence. L'absence négligente du témoignage encourt la culpabilité lorsque c'est découvert. Le témoignage doit donc être exposé, à moins qu'il n'ait été le sujet d'une offrande pour l'offense, comme nous le voyons d'après les textes. De telles offrandes pour l'offense et l'expiation ne vont pas atténuer le témoignage, qui était connu et requis avant le repentir. Nous lisons dans Lévitique chapitre 5, versets 4 à 13. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira, en sacrifice de culpabilité à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur, qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque, sans la séparer, il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire, et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste, d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième d'épha de fleurs de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus et il n'y ajoutera point d'encens car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au sacrificateur et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur, comme dans l'offrande en don. Version 8 secondes. Retenir injustement la vérité est aussi applicable à un faux enseignement. Nous ne devons pas porter de faux témoignages concernant la révélation de l'Esprit-Saint dans l'interprétation et l'instruction biblique. Les ministres qui enseignent contrairement à la vérité et à leur conscience sont coupables de cette infraction. Nous lisons dans Romains chapitre 1 verset 18 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Version 8 secondes. Aucune église n'a le droit d'introduire des lois ou des enseignements qui sont en conflit avec la loi et le témoignage de la Bible. Chaque conseil d'église et chaque canon d'église qui est en conflit avec la loi biblique est non seulement incorrect, mais il est une offense contre Dieu Tout-Puissant. Tout individu qui a commis une telle offense s'est condamné à la deuxième résurrection, avec tous ceux qui l'ont suivi. En vérité, aucune plus grande angoisse ne sera éprouvée qu'à la deuxième résurrection, quand des millions et des millions de gens se rendront compte qu'ils ont suivi des ecclésiastiques apostats à leur propre perte et qu'ils doivent recommencer de nouveau. Ces ecclésiastiques n'étaient pas satisfaits de s'exclure eux-mêmes du royaume de Dieu. Ils ont, en tant qu'instrument du dragon Satan, persécuté l'Église et ceux qui ont gardé les commandements de Dieu et le témoignage et la foi de Jésus-Christ. Voir Apocalypse 6, versets 9 à 11, chapitre 12, verset 17, chapitre 14, verset 12, chapitre 22, verset 14. L'obligation de dire toute la vérité incombe à tous. Mentir par omission à l'autorité légale équivaut à porter un faux témoignage. Le parjure. Personne ne doit jurer faussement. Nous lisons dans Lévitique chapitre 19, verset 12. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Version 8 secondes. La punition pour le parjure est obligatoire. Voir Proverbe 19, verset 5, verset 9. Comparer chapitre 25, verset 18. Tout faux témoignage empêche d'entrer dans la vie. Matthieu 19, verset 17 à 19. Marc 10, verset 18 à 19. Luc 18, verset 19 à 20. Voir aussi Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Nous lisons dans Luc 18, verset 19 à 20. Jésus lui répondit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Version 8 secondes. Donc, quiconque échoue à observer les commandements a échoué la foi et doit être exclu de l'Église jusqu'au repentir. Comme nous l'avons vu, le faux témoignage est un péché contre Dieu. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 6, versets 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit : Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième, et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, prix du troupeau, d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Version 8 secondes. Tout faux témoignage implique un péché et une perte, et par conséquent, une restauration est impliquée. Nous lisons dans Deutéronome 19, versets 16 à 21. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin ? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition ? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Version 8 secondes. De là, La punition pour le parjure est relative à l'intention aussi bien qu'au crime et à la punition qui en résulte. Le jugement. Jacques nous montre l'esprit de la loi. Nous lisons dans Jacques chapitre 2 verset 8 à 13 « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Version Puisseau. Le jugement sans miséricorde est une injustice. Celui qui juge sans miséricorde sera jugé sans miséricorde. Comparé Deutéronome chapitre 1 verset 16. Le juge ne porte pas l'épée en vain. Il tire son autorité de Dieu, indépendamment du système. Nous lisons dans Romains chapitre 13 verset 1 à 4. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Version Louis II. Dieu juge parmi les Elohim. Voir psaume 82, verset 1. Lisons dans psaume 82, verset 8. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Version Louis II. Comment pouvons-nous juger les anges si nous ne sommes pas capables de nous juger les uns les autres? Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3 à 4. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions-nous pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Version du second. En exerçant le jugement, tous sont formés pour les devoirs placés sur eux dans l'ordre spirituel le plus élevé. Le juge doit exercer la justice, car sans justice, il n'y a aucune vertu. Les deux mots sont les mêmes en hébreu, tzedek, comme nous l'avons vu. La justice doit être sans défaut, car la justice est un sacrifice offert à Dieu dans la justice. Nous lisons Deutéronome chapitre 17, verset 1 à 20. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme, faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou punira de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge, tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront, dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront, et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent », tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit « Vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs les lévites. Il devra la voir avec lui, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. » Version Louis II. La structure de la justice comprend quelques concepts qui ont été mentionnés auparavant. Nous lisons dans Deutéronome 16, versets 19 à 20, « Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Version Louis II. Comparez aussi Deutéronome 25, versets 1 à 3, ci-dessus. « Personne ne peut régner sans préparer une copie du livre de la loi pour lui-même, et sans l'étudier, en rédigeant la Torah par section. La sentence du jugement doit être selon la loi de Dieu, avec miséricorde et justice, et elle doit être exécutée. La prison ou la détention. Une personne peut être détenue en attendant le jugement. Voir Nombre 15, versets 32 à 36. Le jugement doit être fait rapidement, et la punition allouée selon le crime. Nous lisons dans Esdras, chapitre 7, verset 26. « Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. » Version Louis II. Par conséquent, la personne doit être jugée sans retard. La détention sans procès est contre les lois de Dieu. Le but de l'emprisonnement est le remboursement par le travail des dettes échues conformément au jugement. Les fonds sont utilisés pour payer ou faire la restitution pour l'infraction si la confiscation des biens ne rembourse pas le crime. Il s'ensuit que le paiement pour le travail doit être équitable, car cela rendrait alors l'État coupable de retenir le salaire du pauvre, et ce paiement est appliqué à la réduction de la sentence. Par conséquent, les usines de prison, utilisant le travail à bon marché, comme nous en trouvons en Chine, sont contre les lois de Dieu. Une personne peut aussi être contrainte aux travaux forcés dans une ville de refuge pour la durée de la vie du sacrificateur de la ville. Le travail dans une ville de refuge ne doit pas être interprété comme une incarcération solitaire dans une prison. ce qui est considéré comme une punition cruelle et contre nature. La détention est pour la protection de l'individu et de la société en attendant le jugement. Comparez aussi l'étude de la loi et le 8e commandement, étude numéro 261. La punition physique était administrée à l'extérieur du camp d'Israël. Voir Lévitique 24, verset 14. La réhabilitation et la restitution. Suivant la justice dans le procès, sans exception de personne ou parti pris, la sentence est donnée. Le premier concept derrière la sentence est la réhabilitation. Tout crime est un péché, et le péché est la transgression de la loi. Dieu désire qu'aucune chair ne périsse, mais que tous le servent. Par conséquent, la première considération est le repentir et la réhabilitation dans la miséricorde. Tout Israël doit être saint pour le Seigneur. La réhabilitation a pour but d'assurer la réinsertion de la personne dans la société et son avancement vers un état de perfection. Souvenez-vous que, dans tout jugement, l'Esprit de Dieu doit être présent. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 13. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Version de 8 secondes. À travers Christ, le salut a été étendu aux païens et la structure du jugement a été donnée à toutes les nations. Il a été prophétisé que Moab et Ammon seront absorbés par Juda et qu'ils seront ainsi amenés à la foi dans les derniers jours, comme partie d'Israël. L'Égypte restera intacte. Toutes les nations feront partie du temple du Dieu vivant. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 23, versets 3 à 8. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Version 8 secondes. Nous voyons ici que le concept de fraternité sous la loi de Dieu est offert au-delà des tribus d'Israël aux fils d'Abraham et les Syro-Phéniciens qui ont absorbé les Édomites, entre parenthèses les Iduméens, et aux Égyptiens à cause de leur hospitalité envers Israël. Il est aussi offert à la Syrie qui marche la main dans la main avec Israël en provenance du nord dans les derniers jours. Le salut a été offert aux païens. La fin, ou l'état visé de la loi, est aussi pour assurer le bien-être de chacun. Là où le faux témoignage a causé une perte, il doit alors y avoir restitution. Cependant, avec toute loi, il y a un élément de pardon et de miséricorde. Là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas eu entière réhabilitation. Chacun doit tenir compte de ce qu'il a perdu et de ce qu'il espère gagner. Il est meilleur d'être restauré à son frère qu'à sa propriété. Le crime est accompagné par la punition et celle-ci n'est pas toujours celle du magistrat. La restauration implique toujours le repentir. Sans le repentir, les malédictions de la loi suivent. Ces malédictions s'appliquent davantage aux nations qu'aux individus. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 28, versets 18 à 19. « Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. » Version 8 secondes. Il y aura toujours le péché, l'offense et la restitution. Cependant, Dieu juge le cœur de chaque personne. Nous lisons dans Nombre, chapitre 5, versets 5 à 10. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. » S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur, à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Version 8 secondes. Chacun est maintenant responsable pour ses propres péchés, et Dieu a parlé par ses serviteurs, les prophètes, concernant les péchés des pères. Nous lisons dans Nombre, chapitre 14, verset 18, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Version 8 secondes. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 24, verset 16, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. » Version 8 secondes. Cette miséricorde de Dieu a eu pour conséquence que son esprit soit maintenant disponible à tous, afin que chaque personne soit responsable pour ses propres offenses ou péchés. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 18, verset 19 à 24, vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, à cause de cela il mourra. Version 8 secondes. La loi doit être promulguée tous les 7 ans. La loi doit être étudiée et promulguée tous les 7 ans, dans l'année de sabbat du jubilé. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 31, verset 10 à 13. Moïse leur donna cet ordre, tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. version 8 secondes. La perfection de l'individu et du système. Le résultat final de la loi et du plan de Dieu est la perfection dans l'Esprit Saint. Nous lisons dans Deutéronome 18, verset 13, « Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel votre Dieu. » Version BDS, IBS. Nous sommes aussi requis d'aimer nos ennemis, car si nous n'aimons que nos amis, comment alors nous distinguons-nous des autres? Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, versets 46 à 48. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Version 8 secondes. Ce but était réalisable depuis les fils d'Adam. Nous devons être parfaits, comme Noé était parfait et comme Enoch était juste. Nous lisons dans Genèse chapitre 6, verset 9. « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Version 8 secondes. Ainsi, Dieu, à travers Christ, a commandé à Abraham d'être parfait, comme Christ nous a aussi commandé. Nous lisons dans Genèse chapitre 17, verset 1, « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Version 8 secondes. Donc, la perfection dans l'Esprit Saint est non seulement possible, mais elle nous est commandée. On nous commande d'aimer nos ennemis et de réhabiliter tous ceux qui sont tombés de la grâce. De là, les pénalités extrêmes sous la loi devraient seulement être administrées quand il y a un échec admis, complet et non repenti. Nous lisons dans Psaume 37, verset 37. « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. » Version 8 secondes. Tous doivent marcher dans l'Esprit Saint sous la loi royale de liberté. Fin de la lecture de l'étude La loi et le 9e commandement, étude numéro 262.